Petit déjeuner décroissant samedi dernier au LAG, lieu autogéré de Liévin qui accueillait Vincent Liéger, militant pour la décroissance économique, mais également auteur, conférencier, ingénieur et économiste entre autres. Une entrevue qui pose autant les jalons du mouvement politique d'objection de croissance qu'elle permet de préciser le projet de dotation inconditionnelle d'autonomie. Vincent Liéger, vous êtes co-auteur d'un livre qui s'appelle « Un projet pour la décroissance, dotation inconditionnelle d'autonomie, autant pour moi ». Est-ce que vous pouvez simplement vous présenter pour commencer ?
Je suis objecteur de croissance décroissant et puis je suis actif dans les réseaux de la décroissance depuis une bonne dizaine d'années où je fais pas mal de choses.
Et membre du Parti pour la décroissance également ?
Alors j'étais membre du Parti pour la décroissance qui n'avait de parti que le nom et qui était plus un collectif ouvert qui avait pour objectif de questionner notre système politique.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grands aspects, les axes principaux du projet politique et social décroissant ?
Alors déjà la décroissance c'est intéressant parce que c'est avant tout un outil sémantique, c'est un mot au but, c'est un mot qui a pour objectif de provoquer du débat, qui a pour objectif de faire exploser toutes les croyances implicites que l'on a dans notre société autour de la croissance, autour du toujours plus, autour du mythe que pour être heureux, il faudrait toujours avoir plus, aller plus loin, être plus fort, être plus vite, etc. Et ce terme a un côté provocateur, parce que je crois, et fonctionne bien en termes de provocation, parce que je crois qu'on a dans nos sociétés une forme de religion de la croissance. Quand on écoute les politiques, intellectuels, médias mainstream, en permanence, on voit revenir ce mot croissance qui serait la solution à tous nos problèmes, mais on ne parle jamais de la croissance de quoi, de qui, comment, pourquoi, etc. Et à travers ce terme, on invite à se poser la question d'une part que une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible, que d'autre part, une croissance infinie dans un monde fini, est-ce que ça aurait du sens, même si c'était possible, est-ce que ce serait quelque chose de désirable, est-ce que c'est quelque chose qui nous rendrait heureux? Et puis, ça nous invite à passer d'une vision quantitative de la mesure de notre bien-être ou de la vie en société vers des questions beaucoup plus complexes et qualitatives autour de qu'est-ce qui a vraiment du sens dans notre quotidien, dans notre manière de vivre.
Alors, on comprend assez facilement cet argument de la décroissance qui est de dire qu'il y a des limites physiques à notre planète. Donc, on comprend aussi le besoin de réduire la production et la consommation. En revanche, un autre argument qui est peut-être plus difficile à appréhender, c'est la limite du progrès technique, qui est aussi très, très mise en avant par la décroissance, et ce que vous appelez un seuil de contre-productivité des technologies.
Exactement, et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans la décroissance, c'est qu'on fait le lien entre, je dirais, des analyses plus scientifiques, physiques, des limites de la croissance, entre des choses qui sont aujourd'hui extrêmement bien documentées, débattues, qui commencent à être bien comprises dans nos sociétés, comme le changement climatique, la chute de la biodiversité, le fait que l'on ait dans nos sociétés occidentales une empreinte écologique non soutenable. Je veux dire, même c'est tellement absurde dans nos organisations sociétales que même les gens qui vivent dans des conditions de chômage, de misère, de difficultés économiques, ont eux-mêmes une empreinte écologique non soutenable. Donc ça pose vraiment la question en profondeur du non-sens physique de notre modèle de société. Et ça pose aussi indirectement la question de ce qu'on appelle les limites culturelles de la croissance. C'est qu'on a une empreinte écologique de 4-5 planètes, c'est-à-dire que si tout le monde consommait comme nous, il faudrait 5 planètes pour subvenir aux besoins de l'ensemble des personnes sur la Terre. Et je suis pas sûr que l'on soit 5 fois plus heureux que des personnes qui ont une empreinte écologique ou un mode de vie soutenable. Et ça pose la question de comment on est devenu dépendant d'un certain nombre de technologies, d'institutions, de techniques qui au départ ont été créées pour répondre à des besoins fondamentaux. Et je vais juste prendre un exemple et citer une étude d'un des précurseurs de la décroissance qui nous a beaucoup inspiré, qui est Ivan Illich, qui était un sociologue d'origine austro-hongroise et qui dans les années 70... avait fait un calcul assez éloquent. Il avait calculé par rapport à la bagnole, la voiture, qui est un outil qui peut rendre des services tout à fait intéressants dans un certain cadre d'utilisation. Mais il a fait le calcul comment on est devenu toxico-dépendant de nos voitures et pourquoi la voiture est devenue un outil contre-productif. Donc il avait calculé dans les années 70 aux États-Unis quelle est la vitesse moyenne d'une voiture si on prend en compte le temps qu'il faut pour travailler, pour financer et sa voiture, l'infrastructure qui va avec, et les méfaits, et à la voiture, les accidents de bagnole. Il n'est pas calculé à l'époque les conséquences liées à la pollution atmosphérique, par exemple. Et il arrivait à une vitesse moyenne autour de 5 km/h. Ce qui veut dire qu'une voiture, telle qu'on l'utilise en dépendant de nos sociétés, est aussi efficace que si on marchait à pied. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut brûler toutes les voitures, mais ça veut dire qu'il y aurait peut-être une réflexion à avoir sur notre dépendance à la voiture et sur la manière dont on a construit notre urbanisme, notre société, la manière dont on est devenu dépendant d'un outil. Un outil qui était censé être là pour répondre à des besoins et qui aujourd'hui nous rend dépendants. Et on est tombé aujourd'hui dans ce piège où il me faut une bagnole pour aller travailler et j'ai besoin d'un boulot pour payer ma voiture. Et la décroissance sur à peu près tout nous invite à réévaluer, à se réapproprier nos usages, à se réapproprier le sens des outils, des techniques, des technologies, des institutions qu'on construise pour éviter de tomber dans cet écueil que lorsqu'elles commencent à croître ou à se développer, à un moment donné, elles atteignent un seuil de contre-productivité.
Alors le projet décroissant se veut global, multidimensionnel, interdisciplinaire. Comment réussir à unifier en fait toutes ces dimensions, que ce soit une éthique personnelle, l'économie, même à grande échelle, les institutions politiques, l'utopie sociale, ça paraît quand même très ambitieux.
C'est à la fois très ambitieux et à la fois pragmatique. C'est très ambitieux parce qu'il faut avancer sur différents leviers, différents niveaux, différents aspects en même temps, et pragmatique parce qu'on peut, à titre individuel ou collectif ou politique, commencer par seulement l'une des choses. Par exemple, faire de la décroissance, ça peut être juste de décider de réduire sa consommation de viande, qu'on consommait moins de viande, mais quand on achète de la viande, on va acheter un bon morceau, et ça va être quelque chose d'exceptionnel. Ça peut consister à repenser son rapport au travail, quand c'est possible, se réapproprier du temps libre et puis s'investir dans des collectifs locaux comme une AMAP, comme donc une association pour le maintien de l'agriculture paysanne ou un jardin partagé, produire soi-même sa nourriture ou créer une monnaie locale. Et puis ça peut aussi consister à s'intéresser à des questions autres, plus philosophiques ou politiques, par exemple. Ça peut consister à s'intéresser à des sujets comme le revenu de base inconditionnel, le revenu maximum acceptable, à s'intéresser aux questions macroéconomiques autour des dettes publiques. D'où est-ce qu'elles viennent, comment elles sont créées, qu'est-ce que la création monétaire, et je dirais que donc c'est ambitieux parce qu'il faut être quelque part un super professionnel sur toutes ces questions-là, mais c'est pas nécessaire parce qu'il y a plein de gens qui font des tas de choses. Et je dirais qu'un des rôles de la décroissance, c'est de jouer un rôle de ciment, de pont, de lien entre différentes réflexions, différentes pratiques, différentes expérimentations, différents projets, différentes discussions. Et de participer à une forme d'essaimage de graines sur différents niveaux, dans le but de transformer la société de manière culturelle en profondeur, pour ensuite avoir des transformations institutionnelles, politiques, etc. Et cet essaimage de graines a pour objectif aussi, en parallèle d'une transformation de la situation pour avoir un sol fertile, de commencer à voir éclore des formes d'espoir et de transformation profonde de la société.
Le projet de décroissance repose, c'est l'un des arguments de votre livre, repose politiquement sur la dotation inconditionnelle d'autonomie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette mesure et aussi comment elle s'oppose au revenu de base dont on dit qu'il colporte encore ce revenu de base, une forme de libéralisme économique?
Désolé pour ce jargon barbare de dotation inconditionnelle d'autonomie, c'est une réflexion, et là aussi ça rejoint la question précédente sur la multidimensionnalité de la pensée de la décroissance. On a mis ensemble un certain nombre de réflexions. La première étant de dire que dans nos sociétés aussi riches, il est injustifiable, nous refusons le fait d'abandonner des gens. Ça devrait être un droit inconditionnel, inaliénable, que chaque personne arrivant sur cette planète, qui en plus n'a pas décidé de naître, doit avoir des conditions de vie décentes. Et puis on a fait le lien avec d'autres réflexions sur, par exemple, la gratuité autour du bon usage d'un certain nombre de ressources, comme l'eau. Pourquoi payer le même prix, le litre d'eau qu'on utilise pour boire, pour manger, pour faire la cuisine, pour se laver, ou le litre d'eau qu'on utilise pour arroser un golf ou remplir sa piscine individuelle ou laver son 4x4. On l'a couplé aussi à la logique de revenu maximum acceptable, de dire qu'à un certain niveau, il faut se réapproprier le sens des limites, et pour des raisons de justice sociale et environnementale, on ne peut pas accepter qu'il y ait des écarts de salaire de 1 à 4 000, etc. Et on a eu un peu cette réflexion de dire qu'il faut construire un espace écologique où, en dessous d'un certain niveau, on refuse d'abandonner qui que ce soit. Et au-delà d'un certain niveau, on refuse d'y aller parce que ça crée plus de problèmes. Et en plus, on se rend compte que les plus riches créent du mal-être subjectif parce qu'on se compare à eux, créent des frustrations. Et en même temps, ils ne sont pas les plus heureux sur cette planète. C'est assez paradoxal. Et donc, on a émergé cette proposition de dotation inconditionnelle d'autonomie qui s'est aussi inspirée de la notion de revenu de base inconditionnel. Et je reviendrai après sur les différences et certaines critiques qu'on peut faire au revenu de base inconditionnel. Et la dotation inconditionnelle d'autonomie consisterait à donner de la naissance à la mort de manière inconditionnelle, c'est-à-dire non couplée à une participation à un travail, ce que l'on considère démocratiquement comme étant suffisant pour avoir une vie décente, une vie digne. Et ce serait quelque chose qui pourrait être donné à la fois en argent, monnaie nationale ou monnaie locale, qui pourrait être donné en droit d'accès, accès à des services publics, comme par exemple un service funéraire, la santé, l'éducation, et accès aussi à un certain nombre de droits de tirage, un certain nombre de litres d'eau pour avoir un bon usage de cette eau, un certain nombre de mètres carrés pour se loger décemment, et ainsi de suite. Et je dirais que l'enjeu de la dotation inconditionnelle d'autonomie n'est pas tant sa mise en place technique que le fait de susciter du débat autour du questionnement de qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage. Et se réapproprier à la fois cette logique d'abandonner personne et de s'auto-organiser pour répondre à nos besoins essentiels, de définir quels sont ces besoins essentiels et de se poser la question comment, d'un point de vue soutenable, mais d'un point de vue aussi juste dans l'organisation de la répartition des tâches difficiles, du travail, la répartition des biens, la réappropriation des communs, etc., comment on peut construire d'autres modèles de société que le nôtre aujourd'hui qui gaspille, qui surproduit et en même temps abandonne un grand nombre de personnes. Alors comme je disais, c'est inspiré aussi par le revenu de base inconditionnel, qui est une idée que nous, on soutient quelque part, mais qu'on soutient sous condition. C'est-à-dire qu'un outil économique ne fait pas projet politique. Et avec un outil, j'évoquais tout à l'heure la question de l'automobile, on peut faire tout et n'importe quoi. On peut faire des choses qui sont fondamentalement totalement contre-productives et des choses qui sont pertinentes. Et on alerte nos compagnons de route qui s'intéressent au revenu de base uniquement comme outil à le mettre en perspective ou dans un cadre politique, c'est-à-dire lui donner une dimension politique. C'est pourquoi nous, on s'intéresse à ce débat en disant le revenu de base est une porte d'entrée pour reposer la question, par exemple, de la place du travail dans nos sociétés. C'est une porte d'entrée pour peut-être repenser tout notre système de protection tel qu'il existe aujourd'hui et qui s'avère inefficient et humiliant sous certains aspects. C'est par exemple le RSA, où une large partie de personnes qui ont le droit au RSA aujourd'hui dans nos sociétés n'y accèdent pas parce que c'est une contrainte administrative compliquée, parce qu'il y a une dimension humiliante avec une pression. Si tu vas vers le RSA, c'est que tu es un profiteur, alors que les études montrent que les choses sont beaucoup plus complexes que ça, voire même totalement l'opposé. Et donc le revenu de base est un outil extrêmement intéressant, à condition de le coupler, là aussi c'est ce que fait la décroissance, faisant le lien au revenu de base, à d'autres questions, le revenu maximum acceptable, et un certain nombre de questionnements par rapport à une transformation de notre société pour aller vers plus de justice sociale, mais aussi plus de soutenabilité, de convivialité, de désirabilité, d'autonomie, et ainsi de suite.
Dans le mouvement de la décroissance, on parle de décoloniser l'imaginaire. Il y a néanmoins des freins, notamment la connotation négative du mot décroissance, le côté marginal de ce type d'altermondialisme, ou encore un problème d'échelle, c'est-à-dire que pour pas mal de gens, ce projet ne serait pas compatible avec le développement urbain ou bien un réseau mondialisé. Comment dépasser ces freins ?
Il y a plusieurs questions qui sont très justes et qui sont pas évidentes et qui sont encore débattues dans les réseaux décroissants. Je vais commencer sur la dimension repoussoire du terme décroissance. qui est souvent critiqué parce que c'est pas un slogan derrière lequel on crée un enthousiasme, on peut fédérer un large mouvement. Et je dirais que moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas parce que d'une part, il y a d'autres slogans plus positifs qui portent des idées très similaires de celles de la décroissance qui jouent ce rôle. Et le rôle de la décroissance est complémentaire parce que c'est un empêcheur de penser en rond, c'est un mot qui invite à permanence toujours questionner. C'est-à-dire que c'est un mot qui nous protège contre de fausses bonnes solutions. Parce qu'on va faire quelque chose et puis le mot décroissance est toujours là hein, et participe à décoloniser notre imaginaire ou à nous questionner pour décoloniser notre imaginaire, c'est-à-dire pour sortir d'un certain nombre de schémas de pensée, de croyances qui peuvent nous faire dépenser, nous faire penser à mauvais escient. Et l'autre raison pour laquelle je pense que c'est un terme qui est utile, c'est qu'il nous protège de fausses bonnes solutions, mais il nous protège surtout de récupération. Et on a pu voir comment dans une société dominée par la publicité, par le marketing, donc le mensonge, un certain nombre de concepts, d'idées qui ont émergé au cours de ces dernières années, il y a une prise de conscience sur les enjeux environnementaux autour du changement climatique, etc. Eh ben, le marketing s'est adapté et a commencé à nous vendre des voitures qui allaient sauver le climat, des séjours en avion dans un hôtel climatisé en Tunisie qui allait sauver le climat, et ainsi de suite. Ça va être plus compliqué, comme on nous vend aujourd'hui des 4x4 bio, j'allais dire, mais c'est pas encore le cas, mais K4 verts, mais bientôt on nous vend des 4x4 bio. On nous vend tout et n'importe quoi à la sauce écologique, bio, green, vert, soutenable, durable, tout ce qu'on veut. Ça va être plus compliqué pour le marketing de nous vendre un 4x4 décroissant, même si rien n'est impossible dans ce monde basé sur la communication. Et je dirais que c'est extrêmement important d'avoir cet outil. Dans une société où on ne pense plus, dans une société dominée par le marketing, etc., d'avoir cet outil qui nous oblige à chaque fois à repenser, à aller au fond des choses, à se poser la question mais quand il parle de truc écolo, est-ce que c'est vraiment écolo? Quelles sont les implications? Est-ce que cette énergie renouvelable est vraiment renouvelable? Comment elle est produite? Par qui? Comment? D'où viennent les matériaux qu'on utilise dedans? Et ainsi de suite. Et c'est pourquoi je me retrouve tout à fait derrière ce terme décroissance qui pour moi n'est pas une finalité, n'est pas une fin en soi, mais vraiment un outil utile et nécessaire dans nos sociétés de communication. Et ça nous invite aussi à sortir de cette forme de communication simpliste parce que le monde dominant est quand même le deuxième budget mondial, c'est la publicité avec 1 000 milliards de dollars par an. D'investis. Dans un pays comme la France, c'est plusieurs centaines, je crois que c'est autour de 300 000 personnes qui travaillent dans le monde de la publicité. Donc, c'est-à-dire des gens qui ont un talent indéniable, de la créativité, un talent visuel, un talent pour nous, qui devrait nous aider, faciliter la communication, la diffusion d'informations qui ont du sens, etc. Or, la publicité aujourd'hui a pour objectif de manipuler nos cerveaux. À travers des théories très élaborées de psychologie sociale, de sciences cognitives et ainsi de suite, dans le but de nous faire désirer des choses dont on ne veut pas. Et je dirais que la décroissance est avant tout un projet qui a vocation émancipatrice et à travers ce terme fait de l'éducation populaire en nous invitant à aller au-delà des mots, aller au-delà des apparences, aller au-delà des communications dans une forme de pour reprendre une expression que j'aimais bien, de résistance intellectuelle, d'autoprotection, de défense intellectuelle.
N'y aurait-il pas, au sein même du mouvement décroissant, également nécessité de décoloniser l'imaginaire? Ici, je parle un peu de ces vestiges du fantasme révolutionnaire. Il y a quelque chose encore de prophétique dans l'utopie décroissante.
Mais c'est des débats qu'on a. Alors, je dirais il n'y a pas une unité ou une uniformité entre... les différents discours, approches, réflexions au sein des réseaux de la décroissance. Et je dirais que c'est tant mieux. Je dirais que même on essaye de cultiver notre diversité, parce que je crois que la diversité, comme dans un écosystème, est ce qui permet d'avoir de la résilience, qui permet d'avoir des solidarités, des complémentarités. Moi, de mon côté, je suis plutôt dans une approche qui est de comment changer la société sans prendre le pouvoir, parce que si on prend le pouvoir, on est pris par le pouvoir. mais sans prendre le pouvoir ni le laisser. Donc il y a une fois tout un aspect de résistance, résistance contre les lobbies, contre les pouvoirs politiques qui vont à l'encontre de l'intérêt général, contre ce système oligarchique, la finance qui a pris un pouvoir énorme. Et autour de ces réflexions de comment changer la société sans prendre le pouvoir ni le laisser, il y a aussi toute une réflexion qui est comment être radical sans être extrémiste. C'est-à-dire comment prendre les problèmes à la racine, la radicalité, sans être extrémiste, c'est-à-dire en apportant plutôt du dialogue, des questionnements, non pas pour essayer de convaincre les gens, mais au contraire pour essayer de susciter chez eux une appropriation de questions qui nous paraissent être les questions importantes. Aujourd'hui, je crois qu'on n'arrive jamais vraiment à convaincre qui que ce soit, parce que dans convaincre, il y a con et il y a vaincre. Donc c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop, mais qu'il faut accepter le fait que c'est une invitation à chacune, chacun, de faire son propre chemin, de par son parcours de vie, de par sa propre culture, de par sa situation professionnelle, de par ses contradictions dans sa vie, etc. Et la décroissance invite un peu à ça, et se heurte aussi à cette contradiction, c'est qu'on a une nécessité à aller vite parce qu'on fait face à des urgences sociales, à des urgences environnementales, des urgences politiques extrêmement dures, mais qu'à un moment donné, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc comment trouver ce juste équilibre entre cette radicalité sans tomber dans des formes d'extrémisme, mais plutôt en suscitant du dialogue et en invitant les gens à se réapproprier le changement et les transformations nécessaires.
On va terminer sur la question de la stratégie politique, un peu de la décroissance, à deux points de vue. Le premier, c'est l'institutionnalisation, en quelque sorte, et la tension vis-à-vis du pouvoir avec la création du Parti pour la décroissance, quel est l'objectif. Et le deuxième, par après, c'est l'internationalisation du mouvement. Parce que là, il commence à y avoir des congrès internationaux décroissants, des très grands rassemblements. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ?
Donc je vais répondre à la question en commençant par parler des conférences internationales, parce que je crois que c'est bien représentatif de la stratégie politique ou de la tactique ou de la manière dont on essaie de colporter la décroissance et d'ouvrir des débats. Ces conférences sont inscrites dès le départ dans une logique d'ouverture et de dialogue, en essayant d'inviter à venir débattre autour du thème de décroissance à l'international différentes actrices et différents acteurs impliqués dans les débats, les réflexions, les expérimentations autour des défis et des enjeux du XXIe siècle. Et dès le départ, ce qu'on a essayé de faire n'a pas été d'exporter la décroissance et puis de créer une espèce de multinationale de la décroissance, mais au contraire d'offrir un espace où les gens se rencontrent, et les gens avec des cultures politiques ou nationales différentes, venant de contextes, d'histoires diverses et variées. On invitait les gens à venir, et qui se posent des questions similaires, etc. On les invitait à venir exposer la manière dont ils se posent les questions, quel type de solutions ils apportent et dans quelle mesure ça peut enrichir les débats. Je vais prendre juste quelques exemples. La décroissance, quand elle rencontre, par exemple, les réseaux de la transition qui viennent du monde anglo-saxon, le mouvement des villes en transition qui a pris une grosse ampleur dans le monde anglo-saxon, est un peu challengé parce que nos amis anglais, plus pragmatiques que nos amis latins ou français, qui aiment bien philosopher, parler, aller dans les concepts, etc., ben, nos amis anglais, ils ont dit « bon, on arrête de blablater ». On sait qu'on fait face au changement climatique et au pic de pétrole. Comment on s'organise et comment on s'auto-organise localement d'un point de vue pragmatique pour mettre en place des situations de résilience par rapport aux catastrophes à venir. Je dirais que pour nous, c'est un peu un choc. Et en parallèle, nos amis anglo-saxons ont lancé ce mouvement qui a pris une certaine grosse ampleur. Et puis, quand ça prend de l'ampleur, se retrouvent à se poser des questions. Quel rapport au pouvoir ? Dans une petite municipalité, on a lancé un réseau de transition, on a fait une monnaie locale, un jardin communautaire, une AMAP, on a investi dans les énergies renouvelables, on a toute une dynamique collective extrêmement intéressante, mais le maire est contre nous, les municipales arrivent, comment on se positionne par rapport à ça? Et je dirais que les réflexions de la décroissance leur ont donné des billes sur toute une réflexion de stratégie politique, de rapport au pouvoir, de rapport aux institutions, de la même manière, de rapport au capitalisme, au néolibéralisme, et ainsi de suite. Un autre exemple intéressant, complémentaire, c'est que la décroissance au départ s'inscrivait dans un contexte politique très français, avec une tradition pour l'opposition directe, limite violente, la provocation, le débat dur, etc. Et puis on rencontre nos amis indiens qui se posent des questions quant au développement extrêmement violent qu'a connu l'Inde ces dernières décennies et son impact social. En termes de solidarité, de structure sociale, l'impact sur les populations et ainsi de suite, et puis aussi environnemental, et qui s'inscrit dans des formes post-gandhistes, non violentes, de critique au développement. Et puis eux, ils nous expliquent, ah non, mais vous, avec votre truc hyper agressif, vous ne pouvez pas susciter du débat, vous allez bloquer les gens. Et ils nous invitent à nous poser la question de la communication non violente, de posture non violente, de certaines cultures de dialogue autour de la manière de colporter la politique. Et je dirais que c'est ce qu'on essaye de faire à travers ces conférences internationales, mais de manière générale à travers la décroissance, c'est de créer ces ponts, ces liens, ces espaces de dialogue entre différentes cultures, différentes approches, pour essayer de mieux se comprendre dans une logique de dialogue profond, sans pour autant délaisser toute la dimension radicale de prise à la racine des problèmes qu'on essaye d'avoir. Et pour terminer, c'est très bien représenté dans l'appel qu'on vient de lancer avec différentes objectrices et objecteurs de croissance, l'appel qui fait suite à la publication d'un rapport de 15 000 scientifiques en novembre dernier sur le thème « Demain, il sera trop tard ». Que faire à court et moyen terme et long terme? Et on a essayé de réunir autour de cet appel une très large diversité de personnes en France. Donc on a eu très rapidement 140 premiers signataires, des personnes de différentes cultures politiques, des familles politiques, mais aussi des gens impliqués sur différents niveaux, qui sont soit impliqués dans des alternatives locales, dans des collectifs locaux, ou qui sont des élus municipaux, régionaux, nationaux, et puis aussi des universitaires, des intellectuels. Et c'est ce qu'on essaye de faire, de créer ce lien, tous ces espaces de dialogue entre différentes cultures, différentes familles politiques, différents niveaux d'action et ainsi de suite, parce qu'on pense que la transformation de la société ne viendra pas d'en haut, ce ne sera pas une prise de pouvoir qui décrétera que demain tout le monde sera en vélo et tout le monde sera heureux d'être dans une AMAP, mais qui passera sur une réappropriation, un réenchantement de la politique, de la vie citoyenne, à travers la réappropriation de qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage, de nos usages, vraiment de nos usages quotidiens, et aussi de nos solidarités et de nos outils.
C'était un reportage de Luc pour Micro Rebelle et Radio PFM.